Bonjour Bruno.
Bonjour Fabien. Alors aujourd'hui, on va rencontrer un scénariste, il s'appelle Jean-Luc Fromental. Les romans durs, Sans maigret de Simenon, sont édités en 12 volumes. Une adaptation en bande dessinée est démarrée, de certains titres seulement, et initiée par John Simenon, le fils cadet de l'écrivain. José-Louis Boquet et Jean-Luc Fromental sont deux scénaristes qui vont chacun à leur tour adapter un de ces romans durs. José-Louis Boquet a commencé avec Le passager du Polaris et Jean-Luc Fromental va suivre avec La neige était sale. Avec John Simenon et José-Louis Boquet, Jean-Luc Fromental signe le scénario de Simenon l'Ostrogoth, une biographie sur les premières années du romancier. Jean-Luc Fromental signe également aussi, avec José-Louis Boquet, les deux derniers tomes de Black et Mortimer, dont le récent « L'art de la guerre » est mis en image par Flock. Nous serons avec Jean-Luc Fromental pour qu'il nous accompagne dans les coulisses de son écriture. A tout de suite. Écriture dessinée. Bonjour à toutes et à tous, Fabien est donc en régie, la programmation musicale a été choisie par Jean-Luc Fromental, nous écouterons successivement Shane McGowan, le célèbre chanteur des Pogues, et Kirsty MacColl en duo, puis il y aura les Beatles et enfin Wet Leg. Alors, je voudrais encadrer ce Simenon l'Ostrogoth et puis L'art de la guerre, le dernier Black et Mortimer, avec trois autres livres. Et donc, on va démarrer par Deep It. Mais avant, un petit rappel, donc le Festival d'Angoulême, c'est la semaine prochaine. Je vous invite à regarder la sélection officielle dans les différents domaines où les récompenses seront attribuées. Et il y a une constante, et avec cette nouvelle sélection, c'est confirmé, les simples palmarès du Festival d'Angoulême sont une excellente liste de choix, une excellente piste. Il y a quelques chefs-d'œuvre, quelques pépites remarquables dans ces différentes sélections. Commençons donc avec Marc-Antoine Mathieu et son tout récent livre, puisqu'il est sorti hier, qui s'appelle Deep It et qui est le second volet de Deep Me. Alors, de quoi il s'agit? Eh bien, Marc-Antoine Mathieu donne à Adam, qui est le dernier artefact humain fonctionnel, une mission primordiale, il doit nous livrer un condensé des questionnements propres à l'humanité post-intelligence artificielle. Alors il y a un événement qui revient aussi dans Deep It, c'est le grand deuil, où absolument tout ce qui pouvait correspondre à la définition de vivant a disparu de la Terre, et l'intelligence artificielle, nommée Adam, est une conscience, celle d'un gardien de la totalité des data générées par l'humanité. Il traverse l'infinité du temps, au fond des océans, où ça pourrait être dans l'univers, et il va être à la recherche des conditions qui ont créé le Big Bang originel. Donc, il y a un projet tout à fait ambitieux et il est important, mais je le rappelle très régulièrement, de feuilleter une bande dessinée. Souvent, on le fait, ou certains le font, pour vérifier leur accointance avec le dessin. Alors qu'en fait, le dessin est un élément un des éléments narratifs de la bande dessinée, et donc de simplement choisir sur cet élément-là est souvent très réducteur et il nous fait passer à côté de quelques œuvres remarquables. Ce qu'on repère immédiatement dans Deep Heat, c'est déjà une variété de dessins. Il y a une ambiance plutôt dans les tons de gris, avec deux, trois écritures qui vont très facilement apparaître. Une qui est souvent dans des récitatifs, qui sont les propos de Adam. Et puis, à l'intérieur d'Adam lui-même, il y a une sorte de module d'intelligence artificielle qui va interagir avec lui et qui va parler avec une autre police de caractère. Et il y en aura une troisième qui va apparaître à différents moments. On voit la couleur dans des tons rouges apparaître sur certaines pages. Et puis, ce dessin d'une très grande précision qui va décrire des lieux avec une certaine constante, comme si l'unité de lieu du récit était importante et on a quelques moments à l'extérieur. C'est très simple de pouvoir déceler et relever ces différentes informations d'un simple feuilletage. Marc-Antoine Mathieu, pour vraiment bien situer son écriture, est un auteur qui s'est très vite imposé des contraintes pour réaliser ses bandes dessinées. Et à chaque fois, il explorait différentes dimensions de la narration en bande dessinée, créait d'autres pistes narratives et avait des projets narratifs tout à fait inhabituels, personnels, très féconds, puisque certaines de ces innovations ont pu être reprises par d'autres dessinateurs. Il y a en tout cas une exigence de réalisation qui fait que des récits comme la série des Julius Corentin Hackfack ont vraiment marqué et sont devenus désormais des classiques. Et puis il y a ces interrogations, puisque Deep Heat peut relever aussi de l'essai. La réflexion que Marc-Antoine Mathieu entame avec ce dernier livre sur l'intelligence artificielle est vraiment nourrie d'un ensemble de connaissances, de lectures, de sensations aussi qu'il interpelle et qu'il va donc mettre en récit avec ce dialogue important entre Adam, qui serait donc le dernier représentant après le grand deuil, et puis ce module qui est à l'intérieur de lui et qui va réagir à partir des connaissances qu'il a. Il y a de nombreuses citations, une volonté vraiment affirmée d'utiliser un langage précis qui peut relever de la philosophie, d'éléments de connaissances scientifiques, et faire ainsi que la réflexion que Marc-Antoine Mathieu nous amène à entreprendre va être d'une grande richesse. Sur l'intelligence artificielle, on a tellement tendance à entendre tout et n'importe quoi que c'était important de refixer et de redonner à notre relation avec l'intelligence artificielle une sorte de base beaucoup plus rigoureuse et beaucoup plus exigeante. Il y a donc dans ce livre une autre contrainte qui est, mais comment on représente Adam, qui est donc cet être qui est l'unique rescapé, comment on va représenter la mémoire qu'a emmagasiné l'intelligence artificielle et Adam, et qui sont accessibles, mais que Adam a du mal à nommer, quels sont ce qui peut être visible, quels sont les éléments visibles par Adam à travers les hublots de l'engin dans lequel il se trouve. Il y a donc ainsi des questions de dessin permanentes qui sont posées à Marc-Antoine Mathieu, qu'il va relever pour donner à cet ensemble une cohérence tout à fait étonnante, où on se prend à s'immerger dans cette réflexion et dans cette mise en image qui n'a absolument rien d'équivalent. C'est toujours la grande force de Marc-Antoine Mathieu d'utiliser la bande dessinée comme cette écriture qui permet, par exemple, de mettre en œuvre un récit plutôt documentaire avec une incitation à la réflexion philosophique, tout ça en utilisant une des dimensions simples de la bande dessinée, qui est ce rapport au personnage principal, au héros, à l'anti-héros, mais à une dimension qui existe très facilement avec le récit en images. Et là, c'est vraiment le cas. Un récit tout à fait étonnant qui nous incite à, en tout cas, reprendre, relire les œuvres précédentes de Marc-Antoine Mathieu et de découvrir l'importance de son œuvre. Deep It de Marc-Antoine Mathieu est un livre qui est publié par les éditions Delcourt. C'est un livre hors collection. Les 112 pages de ce récit sont au prix de 20 €. Et pour l'impression, je vais peut-être y arriver, il me semble que c'est imprimé en France, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Eh bien, pas du tout. Eh bien non, je ne vais pas vous dire où c'est. Parce que, justement, c'est ça qui coince. Allez, virgule, on retrouve nos moustiques. Je voudrais poursuivre avec un récit qui s'appelle Rivage lointain. Il est signé Anaïs Flonnier. Il est édité par un nouveau label qui s'appelle Combo et qui est mis en œuvre par Anaïs Aubert. Alors, il y a dans ce livre Rivage lointain une utilisation aussi de plusieurs calligraphies et qui permet d'avoir déjà pour le lecteur tout de suite différents positionnements par rapport aux scènes qui se déroulent tout au long de l'histoire. Rivage lointain est un récit qu'on pourrait qualifier de genre, mais il y a vraiment une volonté d'échapper à des règles de genre qui peuvent être tout à fait contraignantes. Ça se passe en 1938, le récit s'ouvre, nous sommes à Chicago et on va découvrir un Polonais qui dirige une partie de la pègre locale et qui va se prendre d'affection pour un jeune livreur et il va en faire une sorte d'homme de main. Les deux hommes sont amants et il y a un certain nombre d'événements qui va amener le couple à déménager sur New York, notamment pour reprendre un certain nombre d'affaires qui n'étaient plus possibles à Chicago. Il y a dans ce récit, qui est un récit d'ampleur, qui fait 240 pages, donc vraiment un mouvement dans le récit important, avec des événements essentiels, qui fait que on n'est pas simplement dans un récit qui va se terminer quelques minutes après sa lecture. Donc c'est imaginer. Donc 240 pages, c'est beaucoup plus que 5 albums classiques. Anaïs Flonnier va utiliser par exemple l'écriture pour avoir tout de suite deux niveaux de récit. Il y a une écriture qui est calligraphiée avec vraiment une vivacité qui fait qu'on va être dans les pensées de ce jeune livreur qui s'appelle Julien Tivoli, de son nom italien Giuliano. Et puis il y a Adam Ksar qui est cet émigré polonais qui œuvre dans la pègre. Donc on a là le premier niveau avec toutes les pensées de Julien qui va être immédiatement perceptible et qui met en perspective chaque moment. Il y a les dialogues qui ont, eux, une calligraphie bien spécifique, et là nous sommes dans le moment présent, dans l'échange. Il y a, et c'est un des points essentiels de cette histoire, une question qui traverse toute la bande dessinée. Maintenant que le nombre d'autrices est beaucoup plus important qu'il y a ne serait-ce qu'une dizaine d'années, et c'est très bien, est-ce que un récit de genre qui va être donc porté par une autrice, est-ce que l'écriture va changer? Qu'est-ce qui va le différencier de ces récits, par exemple, sur la mafia que l'on peut voir? Alors, bien sûr, Anaïs Flony va reprendre un des axes puissants de ce type de récit de genre. C'est vraiment un récit à hauteur d'homme, au sens où on est vraiment dans une proximité, dans une intimité, et notamment celle de ce couple entre Adam et Julien. Il y a également une façon de dessiner qui va être avec un trait plutôt léger, en couleur directe, qui peut souvent ne pas être appuyé, mais dans un ton plus foncé que les couleurs de l'image, mais au contraire qui peut être aussi souligné avec un trait noir et affirmer ainsi quelques scènes. Il y a un espace dans la case où les personnages vont ressortir de façon prégnante avec un effacement des décors pour que les personnages se mettent en avant. Et puis il y a aussi un autre point qui est une absence de recours systématique au flingage en règle dans toutes ces histoires de mafia. Il y a bien évidemment la dureté du milieu, mais Anaïs Flony n'en fait absolument pas un passage obligé, prend un peu de distance par rapport à ça, et l'ascension de Julien au sein de la famille, comme il la nomme, eh bien, n'est pas simplement la succession de scènes violentes. Il y a un ton qui ainsi se dégage, une mise en image qui est vraiment avec cette tonalité, une mise en couleur qui joue beaucoup sur la douceur des teintes, utilisant quand c'est nécessaire des contrastes plus appuyés ou entre des périodes. Et ainsi, il y a une écriture qui se met vraiment en place. Et pourtant, Anaïs Flony a effectivement, à partir de son travail d'illustratrice, beaucoup de centres d'intérêt et aussi des plaisirs littéraires ou poétiques, et qui va donc, à travers Rivage lointain, vraiment mettre en œuvre toutes ses aspirations, toutes ses qualités d'illustratrice, mais avec un sens étonnant du récit et du découpage en bande dessinée. C'est une très belle découverte et qui montre toute l'intensité que peut avoir un récit en image dessinée et cette capacité que peuvent avoir les autrices pour mettre d'autres sensibilités, d'autres tonalités en jeu dans de tels récits. Rivage lointain d'Anaïs Flony est publié donc par Combo, et les 240 pages de ce récit sont au prix de 19 euros et le livre a été imprimé en France. Musique. In the drunk tank. An old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you. God,
when all our dreams come true. You promised me Broadway was waiting for me. You were handsome.
You were pretty queen of New York City.
When the band finished playing, they held out for more. Sinatra was swinging, all the drunks we were singing. We kissed on the corner, then danced through the night. The boys of the NYPD choir were singing Galway Bay, and the bells were ringing out for Christmas Day.
In that bed.
You scumbag, you maggot, cheek cheek, lousy faggot. Happy Christmas, you're ours, I pray God it's our love.
The boys of the NYPD choir still singing Galway Bay, and the bells are ringing out for Christmas Day.
Traducteur, éditeur, journaliste, rédacteur en chef de Métal Hurlant, Jean-Luc Fromental, poursuit dans l'animation et travaille avec Druyet, Di Rosa, Solotareff ou Matotti. Il crée le label De Noël Graphique, riche des signatures de Cramp, Pussy Simons, Alison Bechdel ou Hugo Bienvenu. Jean-Luc Fromental est aussi scénariste. Il écrit pour des dessinateurs à l'esthétique puissante, comme Flock, Loustal, My Simon ou Philippe Berthet. À l'occasion de la parution de l'intégrale des romans durs de Simenon en 12 volumes, il adapte en bande dessinée quelques-uns des récits sans Maigret, alternant avec José-Louis Bouquet, l'autre adaptateur. Jean-Luc Fromental scénarise en coécriture. Avec José-Louis Bouquet, ils écrivent aussi les deux derniers tomes de Black et Mortimer. Le dernier, L'art de la guerre, mis en image et en couleur par Flock, met en scène le méchant éternel de la série, Ulrich, inspiré cette fois par un précis de stratégie militaire, L'art de la guerre de Sun Tzu. Le duo de scénaristes s'associe avec John Simenon pour écrire la biographie de Georges Simenon. Le premier tome de ce triptyque, Simenon l'Ostrogoth, est dessiné par Jacques de Loustal, autre connaisseur de l'œuvre de Simenon. L'Ostrogoth, c'est le nom du bateau de Simenon sur lequel il va, avec Tigny, son épouse, vivre sur les canaux de France et de Belgique. Le livre rompt avec une biographie classique. Par un choix de séquences, de moments de vie, les trois auteurs mettent en scène Georges Simenon, Georges Sim, écrivain prolifique de contes et de romans populaires effacés derrière ses 26 pseudonymes. Cette période s'achève avec la création en 1930 du commissaire Maigret. Il signera désormais de son vrai nom Georges Simenon. C'est un développement pour la suite. Nous sommes avec Jean-Luc Fromental pour qu'il nous accompagne dans les coulisses de son écriture. Bonjour Jean-Luc Fromental.
Bonjour Bruno Canard.
Alors, éclairez-nous, comment on fait pour écrire un scénario à six mains ou à six cerveaux, à trois cerveaux?
À trois cerveaux. Plutôt trois cerveaux d'ailleurs que six mains, parce que en fait l'écriture à proprement parler du bouquin pour Jacques de Loustal s'est faite entre José-Louis Bouquet et moi. En quelque sorte, John Simenon nous a servi d'ange tutélaire, c'est-à-dire qu'il était, il planait au-dessus de nous pendant qu'on était en train de travailler. On pourrait croire que c'est inconfortable d'avoir un ayant droit mêlé à un travail biographique comme ça, mais en fait là, ça a été un enrichissement extraordinaire du travail, puisque c'est le seul de nous trois qui, et pour cause, a connu véritablement Georges Simenon, qui était son papa, tout simplement, donc, et par lequel il a été élevé, donc. Donc nous qui n'avions qu'une connaissance, je dirais, livresque, hein, de notre bibliothèque du vieux Georges, nous avons eu la chance donc de rencontrer un témoin direct et de pouvoir parler et confronter nos idées, nos théories, nos thèses sur cet écrivain avec quelqu'un qui l'a connu de très près. Donc ça a, à mon sens, complètement enrichi ce travail, qui n'est pas à proprement parler un biopic, dans le sens où quand on a discuté avec John de ce projet, il nous a dit « je suis moins intéressé par une couverture complète de la vie de mon père que par quelque chose qui pourrait ressembler à un film et qui serait une histoire de la vie de mon père ». C'est pourquoi on a choisi cette partie-là de sa vie qui est cruciale, comme vous l'avez bien expliqué, qui est le moment où il arrive à Paris, où il vit une vie absolument de bohème dans le Paris des années folles, des années 20, et où il se transforme véritablement d'écrivain populaire sous pseudonyme en un des grands écrivains français du XXe siècle.
Alors, Jean-Luc Fromental, quel lecteur de Simenon êtes-vous ? Parce que John Simenon le dit lui-même en parlant des deux JL, donc José-Louis et vous, Jean-Luc, que vous le bluffez par votre connaissance de l'œuvre de Simenon. Alors, quel rapport avez-vous avec cette œuvre littéraire ?
Alors, dans les deux cas, hein, pour ce qui est de José-Louis et de moi, c'est surtout la fréquentation en tant que lecteur de son œuvre qui est déterminante. Pour moi, c'est venu assez tard. C'est-à-dire que, je l'ai expliqué déjà plusieurs fois, mais j'étais un lecteur jeune, plutôt de romans américains, plutôt de hard-boiled américains, c'est-à-dire les grands maîtres Chandler, Hammett, James Cain, etc. Et les lectures de Maigret, par exemple, c'était plutôt le fait de mon papa qui avait ça dans sa bibliothèque, et j'avais essayé d'en lire quelques-uns, et pour être franc, jusqu'à 30 ans, ça me barbait un peu, je trouvais ça un peu franchouillard, en fait. C'était, dans l'élan de la jeunesse qui consiste toujours à aller chercher ailleurs ce qui est beau, ce qui est grand et ce qui est transcendant, je voyais pas les merveilles que j'avais sous le nez. Et puis c'est venu un petit peu sur le tard, donc vers 30 ans, j'ai commencé à lire les Simenon, un peu aussi par une espèce de mal dont je souffre, qui est la bibliomanie, qui consiste à accumuler le plus de livres possible, ce qui est une véritable malédiction par ailleurs, mais très agréable, et parce que à l'époque, on ne pouvait pas aller sur un marché sans trouver dans des boîtes, dans des cartons, des éditions originales de Simenon. Le fait est que Simenon était un auteur qui a été extraordinairement lu dans les années 50, 60, et que donc il y avait des tirages phénoménaux, les premiers tirages de ses romans étaient considérables, donc on les trouvait beaucoup comme ça. Et j'ai commencé à les acheter, parce que je les trouvais bien, je les trouvais jolis, c'était souvent des hardcovers, des livres en dur, quoi, avec une jaquette, etc. Et donc et j'ai commencé à les lire, et là je me suis complètement aperçu de la grandeur de cette œuvre et de sa splendeur unique, puisque c'est une sorte de Balzac du XXe siècle, mais un Balzac laconique, c'est-à-dire un Balzac qui emploie très peu de mots et qui raconte des histoires fulgurantes en très peu de pages.
Alors, comment c'est réparti cette adaptation des romans durs, donc que José Luis Bocquet a fait Le Passager du Polaris, et comment avez-vous abordé tous les deux cette écriture biographique sur l'œuvre de Simenon, sur Simenon lui-même? Éthique, bien sûr.
Il y a deux choses. La genèse est très simple, en fait, du projet. J'avais fait avec Philippe Berthet, que vous avez nommé tout à l'heure, un bouquin qui s'appelait De l'autre côté de la frontière, qui était une évocation, mais ne citant pas son nom, d'un épisode de la vie de Simenon quand il vivait aux États-Unis. Voilà. Et c'était une sorte d'hommage, mais que je rendais en donnant à mon personnage un autre nom, etc., etc. Et un jour, l'attaché de presse donc des éditions Dargo, qui avait publié ce livre, m'appelle en me disant « John Simenon cherche ton numéro de téléphone ». Ce qui peut être à la fois un très bon présage ou l'idée d'une catastrophe à venir, parce qu'il avait une réputation dans le cinéma. John, moi j'avais pas mal œuvré dans l'audiovisuel, et dans le cinéma, il avait la réputation d'un ayant droit assez ferme, disons, et assez dur, etc. Donc, bravement, j'ai donné mon numéro de téléphone, j'ai eu un coup de téléphone d'un homme charmant qui m'a dit « Écoutez, j'ai lu votre livre et j'ai trouvé que vous avez bien compris mon père, que vous cerner le personnage de façon tout à fait intéressante. Ça fait très longtemps que je cherche à faire passer son travail dans le monde de la bande dessinée. Je pense qu'il y a un potentiel là. Est-ce que ça vous intéresse ? » Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler. Comme je travaillais déjà avec José Louis sur le projet Blake et Mortimer, et que José Louis est un très très vieil ami, je lui ai dit « Est-ce que tu es d'accord pour qu'on travaille ensemble ?» Et la première hypothèse de travail, ça a été les adaptations. Ça a été d'adapter un certain nombre de ce qu'on appelle les romans durs, de pas toucher au Maigret qui est un autre sujet, c'est une série, c'est un personnage, etc. Et là, l'idée est venue très vite de faire adapter les romans durs par une série de dessinateurs ou de dessinatrices qui nous plairaient, qui nous paraîtraient aptes à aborder l'univers de Simenon, qui a plusieurs formes, qui est un univers à facettes, mais qui est quand même l'univers d'un seul auteur, d'un seul homme. Et donc, on a commencé à travailler comme ça. Avec l'accord de John, on a commencé à faire une sélection de romans durs. On est parti sur plutôt des romans exotiques, c'est-à-dire des romans, on a beaucoup associé Simenon au pavé luisant de Paris ou au canal de Flandre, au canot de Flandre, avec des cieux très lourds, très bas, etc. En fait, Simenon, c'est aussi les îles Galapagos, c'est aussi l'Afrique, c'est un grand voyageur, donc il a été partout, il a rapporté des romans de partout, des États-Unis, de Norvège, etc. Et donc, on a décidé de commencer là-dessus et d'attaquer sur cette partie-là de l'œuvre. Voilà. Et parallèlement, quand on parlait avec John, il me disait, ce qui serait bien, ça serait de faire une évocation biographique de mon père, mais surtout pas un biopic. J'ai pas envie qu'on raconte l'histoire de mon père en 300 pages en bande dessinée, ça m'intéresse pas tellement. Et je voudrais qu'on le fasse vivre comme un personnage. Et voilà. Et c'est là qu'on est parti avec José Louis à réfléchir sur le sujet et qu'on a décidé finalement de choisir cette période, donc, qui va de 1921 à 1931, c'est-à-dire une dizaine d'années, où il se marie avec Tigy, donc, cette jeune femme belge peintre, et où ensemble, le couple vient à Paris avec des idées de conquête plein la tête, c'est des espèces de Rastignac belges, ils veulent conquérir Paris, elle avec sa peinture, lui avec son travail, et ça nous a permis de raconter comme un film le roman d'un couple, et d'un couple incroyablement moderne, dans une période qui ressemble aux années auxquelles on s'est connu avec José Louis, pendant lesquelles on s'est rencontrés, qui sont les années 80, c'est-à-dire des années de liberté totale, de folie et de nightclubbing, on pourrait dire, pratiquement. Voilà.
Alors, ce premier tome, Simenon, l'Ostrogo, couvre la période jusqu'à 1931. Il fait déjà 110 pages. Est-ce que, puisque un triptyque est annoncé, est-ce que vous allez garder ce volume?
Parce non.
On s'arrête là.
Information qui a circulé, je ne sais pas pourquoi, où, mais je pense que c'est destiné, là, jusqu'à preuve du contraire, il ne faut jamais dire jamais, mais jusqu'à preuve du contraire, je pense que c'est destiné à rester une pièce unique, parce que justement, on n'a pas envie du tout de feuilletonner la vie de Simenon, qui est très riche. Par ailleurs, il y a des tas d'épisodes sensationnels tout au long de sa vie, en réalité, puisque c'est quelqu'un qui a bougé tout le temps. Il a commencé à Liège comme petit journaliste à 17 ans à la Gazette de Liège. Il est venu à Paris, il a été mondain pendant 10 ans, l'amant de Joséphine Baker, le copain de tout ce que Paris comptait de stars, de la peinture, du design, etc. etc. dans ces années dingues d'après-guerre où on pensait vraiment qu'il y avait une liberté qui avait été acquise et qu'on ne perdrait jamais. Et puis où commençait déjà à poindre les nuages qui allaient amener à la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est une période très contrastée, très intéressante, encore une fois, qui ressemble beaucoup à nos années 80, pré-SIDA, pré, Golden Boy, pré-mondialisation, marche forcée, etc. Enfin, il y a tout un... Voilà, eux, ça s'est terminé par de la guerre. Nous, on a attendu un peu plus longtemps, mais ça va venir. Donc, voilà. Et donc, cette période-là est absolument fascinante. Et pour l'instant, en tout cas, il n'est pas du tout question de repartir là-dessus. Maintenant, le gros de notre travail, c'est la suite des adaptations. Moi, je sors ce mois-ci La neige était sale avec Bernard Isler, qui est un grand dessinateur belge, donc sombre, 20e siècle, non, 20e ciel, pardon, etc. Enfin, le dernier Mademoiselle Baudelaire, qui est un très beau livre aussi chez Dupuis. Et donc, on a adapté ensemble ce livre incroyable qui s'appelle La neige était sale, qui est un roman d'une dureté totale. On est déjà au travail, José-Louis et moi, sur les deux suivants. Voilà.
Jean-Luc Fromental, je vous propose votre deuxième choix musical, les Beatles, et puis on se retrouve pour compléter sur Simenon, et puis pour évoquer Black et Mortimer. À tout de suite.
Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know.
Radio Escapade dans l'émission Écriture Dessinée. Nous sommes en direct avec Jean-Luc Fromental à l'occasion de la parution de Simenon l'Ostrogo et de l'art de la guerre. Alors, Jean-Luc Fromental, dans le livre, dans la peau de face de l'autre côté de la frontière, vous parlez de ce moment de la vie au Nouveau-Mexique, dans la Santa Cruz Valley de Simenon, et du roman le fond de la bouteille. Est-ce qu'il n'y a pas une envie de parler de cette période qui est quand même assez incroyable?
C'est une période extraordinaire, par plein de côtés. C'est aussi une période compliquée dans la vie affective de Georges Simenon, puisque c'est la période des choix. Il est entre deux épouses. Il va pas tarder à épouser celle qui a d'abord été sa secrétaire, qui s'appelle Denise Ouimet, qui est une Canadienne, qu'il a rencontrée à New York. Il a raconté cette rencontre dans un très beau roman qui s'appelle Trois chambres à Manhattan. Et c'est assez compliqué, je pense, à faire, parce que c'est une période très mobile où il reste jamais plus de 2 ans à un endroit. Il passe 10 ans aux États-Unis, hein, quand même, de 45 à peu près à 55. Et et je pense que si on voulait faire quelque chose avec cette période-là, il faudrait faire un livre qui aurait au moins le double de pages de l'Ostrogo. Il serait un gros bouquin. Et encore une fois, je suis pas sûr qu'on ait envie de feuilletonner tellement. Moi, j'étais très content d'évoquer cet épisode-là particulier de son existence, sur lequel j'ai fait une variation, parce que c'est il lui est pas arrivé ce que raconte cette bande dessinée, hein, le D'autre côté de la frontière, qui est un thriller, qui est un polar, voilà. Mais c'était rigolo de le mélanger justement à une histoire qui n'est pas arrivée, mais avec le contexte exact, notamment de cette Santa Cruz Valley, qui est une sorte de d'endroit où les riches New-Yorkais.
Ah. On vous a perdu, Jean-Luc Fromental. Donc. On va vous rappeler, et puis donc on est dans cette évocation de cette période très étonnante où il y a effectivement Denise et Tigui. Tigui et Simenon vont divorcer en 1950, et puis Denise va donc devenir l'épouse de Georges Simenon. Et donc de l'autre côté de la frontière est une sorte d'un thriller qui s'inspire de la vie de Simenon dans la Santa Cruz Valley, et c'est le fond de la bouteille, un roman où on est dans les décors de la Santa Cruz Valley, qui est ainsi un roman un peu atypique par rapport aux autres romans durs, et c'est un roman moins connu parmi les romans de Simenon, mais c'est aussi un roman tout à fait étonnant. Donc nous avons retrouvé Jean-Luc Fromental. Je vous laisse écouter. Non, il n'y a pas de souci. On y arrive. Alors, j'aimerais... quel document présentez-vous au dessinateur par rapport au scénario? Je dis vous, José Louis et vous-même. Qu'est-ce que vous donnez comme présentation de description de la page du roman?
De quel livre parlons-nous? Parce que alors, ça change.
C'est la première info. Alors, d'une part, pour Simenon l'Ostrogo, et puis pour le travail avec Flock et notamment L'Art de la guerre.
Alors, le travail avec Flock, l'Ostrogo, c'était un travail avec Loustal, qui est habitué, lui, à travers ses livres avec Paringo, etc., à faire son découpage lui-même. Donc, on lui fournissait un scénario qui s'apparente à ce qu'on appelle au cinéma une continuité, si vous voulez, c'est-à-dire quelque chose qui est totalement raconté, avec tous les dialogues, mais pas découpé. C'est-à-dire qu'on ne donnait pas d'indication de dans telle case il y a ça, dans telle case il y a ça, etc. etc. Parce que il est habitué, lui, à travailler avec un rythme qui lui est propre, qu'il a changé là, parce que si vous connaissez son œuvre antérieure, vous avez vu qu'il travaillait beaucoup en plan séquence, c'est-à-dire avec beaucoup de textes sur des images et un nombre limité d'images. Là, il a découpé exactement comme une bande dessinée, ce qui était une sorte de nouveauté pour lui, et ce qui a ravivé d'ailleurs son intérêt pour la bande dessinée, je pense, et qui a donné ce livre très rythmé, très très soutenu, assez prime-sautier en fait. Parce qu'on parlait de l'idée de comment... pourquoi on ne prendrait pas une autre période de la vie de Simenon, etc. La période qu'on a choisie, c'est la période la plus heureuse, la plus joyeuse, parce qu'il y a eu des choses difficiles dans la vie de Simenon. Il a perdu sa fille, il a eu un divorce très difficile avec sa deuxième épouse. Enfin bon, il y a eu des choses très compliquées. C'est la période de la jeunesse, donc c'est la période la plus allègre, si vous voulez. Voilà. Et donc, pour que cette allégresse fonctionne, il fallait aussi trouver un rythme qui soit de cet ordre-là. Donc, on a beaucoup parlé avec Jacques de ça, mais on ne lui a pas fourni un découpage case à case, mais page à page. C'est-à-dire qu'il savait à peu près la charge narrative de chacune des pages, de sorte qu'on puisse tomber sur le nombre de pages qui nous étaient imparties, parce que c'est toujours une discussion avec l'éditeur au départ pour savoir combien le bouquin va faire de pages, etc. etc. Donc, là, c'était réglé comme ça à l'avance, et on lui fournissait le contenu de chaque page, mais pas le découpage, et libre à lui de construire les images en fonction des dialogues, en fonction de ce qu'on lui racontait, etc. etc. Comme on a pas mal d'expérience de scénariste, José-Louis et moi, on sait quelle quantité d'informations il est raisonnable de mettre dans une page pour pas obliger le dessinateur à dessiner de de cases ou à saturer les pages de texte avec des dialogues trop longs, etc. etc. Donc ça s'est passé très facilement. Avec Flock, c'est tout à fait une autre histoire. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Flock il y a longtemps, hein, quand il faisait de la bande dessinée, puisque il avait arrêté pratiquement de faire de la bande dessinée. Et l'histoire du Blake et Mortimer, c'est intéressant, c'est que donc on a fait un premier Blake et Mortimer avec José-Louis Boquet. Là, c'est lui qui est venu vers moi en me disant, voilà, j'ai une proposition de l'éditeur belge qui est le même, hein, qui est Yves Schlierf des éditions d'Argo Benelux, le même que pour Simon. Et donc, il y a assez longtemps maintenant, José-Louis et m'a appelé en me disant, est-ce que ça t'intéresserait qu'on collabore sur un Blake et Mortimer? Je lui ai dit, ben, comment donc? Bien sûr, c'est amusant et c'est des choses qu'on a lues enfant l'un et l'autre. Donc on a commencé à faire ça, on a fait un Blake et Mortimer très classique avec Antoine Aubin, qui s'appelle 8 heures à Berlin, qui a très très bien marché, qui a été un accueilli formidablement bien, à la fois par la critique et par les lecteurs, par les fans, etc. etc. Et un jour, j'ai reçu un coup de téléphone de Flock me disant dis donc, je suis en train de penser, là, il a quitté Paris, il vit au Pays Basque maintenant, est-ce que ça t'intéresserait qu'on fasse ensemble un Blake et Mortimer? Donc j'ai appelé immédiatement l'éditeur a dit, mais comment donc, le roi de la ligne claire s'intéressant à Blake et Mortimer, formidable, allons-y. Et on est parti, mais il a été convenu que ce ne serait pas un Blake et Mortimer de la série, mais que ça serait dans la foulée du François Skuyten, le dernier pharaon, un Blake et Mortimer hors série, un vu par, quoi, comme on dit aujourd'hui, voilà, qui serait un hommage de Flock. Et à partir de là, on a commencé à travailler, encore une fois avec José-Louis, mais alors là, on a travaillé en haute couture, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'on a taillé un album vraiment pour Flock. Vous êtes toujours là parce que
je suis toujours là, mais je vous écoute avec beaucoup d'attention parce que après la lecture de ce Blake et Mortimer, on est absolument saisi et réjoui, ne serait-ce que simplement par la mise en couleur de Flock qui s'adapte parfaitement à Blake et Mortimer et qui est pourtant étonnamment contemporaine.
Voilà, et comme il était hors de question que Flock rentre dans le canon de la série, nous on aime les deux, hein, travailler pour la série, c'est-à-dire prolonger directement pour les vieux lecteurs, les lecteurs fanatiques, parce que c'est un truc incroyable, Blake et Mortimer, c'est comme les groupes de rock, si vous voulez, ils appartiennent à leurs lecteurs, comme les groupes de rock appartiennent, vous savez, quand les vieux fans jugent le dernier album des Stones, c'est tout un débat, est-ce que c'est encore les Stones, machin, etc., ben, là, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est leur Blake et Mortimer, et on n'a pas intérêt à faire les idiots avec, quoi. Dans le cadre de Flock, c'est un hommage, donc c'est la rencontre de quelqu'un qui a Jacobs dans son ADN, véritablement, hein. Flock vient de là, vraiment, Hergé et Jacobs, et toute son œuvre a été guidée par ça, mais qui en aucun cas n'est dans une posture où il pourrait se permettre de se dire, tiens, comment fait Jacobs, etc., etc. Ça, il l'a digéré, et après, il était question qu'il fasse son hommage à lui, à Blake et Mortimer. Donc tout a découlé de ça. Le scénario a commencé par le jour où Flock m'a dit, je te rappelle que je suis le type du meurtre autour d'une tasse de thé, hein, qui a, ça a été sa définition très longtemps dans ses albums, c'est-à-dire c'était très anglais, ça bougeait pas beaucoup, il n'y avait pas des pompons, des poursuites, des trucs, des machins, etc. Et donc, quand on démarre avec ça dans le pitch pour un Blake et Mortimer, c'est pas gagné d'avance, vous voyez, c'est Blake et Mortimer, c'est les machines phénoménales, la science délirante, les trucs bizarroïdes, etc. Autant de choses que Flock ne voulait pas mettre dedans. Donc on a retravaillé complètement le concept de Blake et Mortimer dans l'esprit de l'album que Flock voulait et devait faire. Et donc ça a donné ce résultat-là, qui a éveillé des réactions pour le moins contrasté, c'est-à-dire qu'on s'est fait aussi, mais démonter de façon extrêmement violente par un certain nombre de gens, ce qui n'est pas grave du tout, c'est un peu les réseaux sociaux aussi, c'est-à-dire que tout le monde donne son avis, tout le monde est critique, tout le monde est ceci, tout le monde est cela, et on a été reçu aussi formidablement par beaucoup de gens qui ont dit c'est marrant parce que ça ressemble pas à un Blake et Mortimer, et en même temps c'est incroyablement proche de l'esprit de Jacobs des débuts, etc., etc. Et c'est vrai qu'on est tous les trois des admirateurs de l'Espadon, qui est la première histoire que Jacobs a dessinée de Blake et Mortimer, et qui ressemble pas au Blake et Mortimer de, par exemple, La Marque Jaune, si vous voulez. Parce que il avait à peine rencontré Hergé à ce moment-là, et Hergé n'avait pas eu encore cette emprise sur lui, elle n'avait pas encore emmené exactement vers la ligne claire qu'il a adoptée ensuite. Elle était encore sous l'emprise de Alex Raymond, dont il avait pris la suite avec le rayon U dans les journaux belges, quand les bandes dessinées américaines ne pouvaient plus entrer dans la Belgique occupée. Voilà.
Jean-Luc Fromental, quel est le plaisir de remettre en scène Ulrich? Parce que c'est le méchant éternel.
Oui, oui, mais c'est exactement comme si vous me demandiez c'est chouette qu'on vous propose de jouer avec Watson et Holmes. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire que, et Moriarty, c'est des archétypes tellement forts, tellement présents, que c'est en quelque sorte, comme j'ai dit plusieurs fois, sur nos Barbies qu'on nous a demandé de ressortir de la boîte à jouets et de leur inventer adultes de nouvelles histoires et de nouvelles aventures. Donc c'est un plaisir qui est très difficile à décrire, c'est presque un plaisir de lecteur, c'est presque comme si tout d'un coup arrivait un nouvel album de Jacobs qu'on n'a pas encore lu 500 fois, sur notre table, sauf que c'est nous qui l'inventons, quoi. Voilà. Donc il y a cette joie-là de prolonger un plaisir qu'on a eu quand on était enfant, adolescent, etc., etc. Et c'est la chance qu'on a eue, c'est qu'on a pu le faire dans deux perspectives complètement différentes. Avec Aubin, avec le meilleur repreneur, je pense, maintenant de la série, c'est-à-dire que le garçon qui est le plus fidèle, le plus logique, même dans sa méthode de travail, avec Jacobs, et avec un héritier de Jacobs, qui, comme je disais, a Jacobs dans son ADN, mais veut faire un album qui est un album qui lui est totalement personnel, donc qui contient toute sa culture pop, avec toutes les citations, les Warhol, les Hopper, les trucs, les machins, enfin, bon, tout ce qu'on a envie de rajouter aussi à Jacobs, parce que depuis qu'on a lu Jacobs, on a fait un chemin dans la vie et qu'on a rencontré mille autres chocs artistiques qui peuvent être cohérents avec cette première émotion que nous a donnée Jacobs.
Une dernière question, Jean-Yves Fromental. Vous travaillez finalement avec des dessinateurs qui ont une esthétique très forte, une élégance. Donc, j'ai cité Fluck, on en parle, mais donc avec Jacques de Loustal, avec Mike Simon ou même Philippe Berthet. Quelle est votre relation en tant que scénariste avec l'esthétique d'un dessinateur et pourquoi ce choix de l'élégance?
Alors, je suis à la fois éditeur et scénariste. Et donc, en tant qu'éditeur, j'opère aux marges de la bande dessinée, c'est-à-dire que je publie des gens, vous avez cité Alison Bechdel, vous avez cité Crumb, vous avez cité Hugo Bienvenu, j'opère avec des gens qui sont aux franges, aux frontières, aux marches de la bande dessinée, si vous voulez. Et en même temps, j'ai la conviction que la bande dessinée, c'est un tout, et que si d'aventure, on perdait le mainstream dans la bande dessinée, c'est-à-dire les albums avec lesquels on a grandi, la bande dessinée s'effondrerait faute de garder son centre, son milieu. Si on arrivait à n'être plus que de la littérature française, si vous voulez, ou même internationale d'ailleurs, mais exigeante, de haut vol, avec un quotient littéraire extrêmement élevé, etc. Donc, en tant que scénariste, je m'adonne vraiment à essayer de ramener dans ce mainstream une vraie qualité, et une vraie qualité graphique, une vraie qualité d'intelligence des dessinateurs. Et le choix se porte toujours sur des gens qui ont un style qui m'épate. Mais c'est un style généralement relativement classique. Alors que je peux travailler avec des gens qui ont des styles complètement différents, complètement échevelés, parce que j'aime toute l'expression graphique, et que donc je me satisfais vraiment de cette double appartenance. Et en tant que scénariste, j'aime choisir des dessinateurs très posés, très solides, et vous verrez le travail avec Isler sur la neige était sale. C'est un album qui est d'une violence incroyable, assez peu commune dans la bande dessinée, mais en même temps d'un classicisme graphique total. C'est magnifique, quoi, je veux dire, voilà. Et donc j'ai les deux. Je suis à la fois un classique et à la fois un explorateur, hein, et favorisant une sorte d'avant-garde en bande dessinée quand je publie justement des gens comme Posy Simmons ou Bechdel ou des gens comme ça qui sont à la marge.
Merci beaucoup Jean-Luc Fromental. J'ai rappelé les références de vos deux livres. Donc Simenon l'Ostrogo, avec un scénario en commun avec José Louis Boquet, et L'Art de la Guerre est fait de même. John Simenon, donc, s'est attaché aussi avec vous sur cette biographie, et s'est mis en image, oui, par Jacques de Loustal. Les 128 pages de ce livre sont au prix de 24 €. C'est imprimé en France. Et puis L'Art de la Guerre, donc, tome 40 de Black et Mortimer, si je ne me suis pas trompé dans mes...
Non, on ne compte pas comme ça.
Ah ouais, oui, c'est vrai qu'on n'est plus dans la série, on est dans les vues, les hommages.
C'est un autre regard. Ça s'appelle Un autre regard sur Black et Mortimer, et pour l'instant il y en a deux, je ne sais pas s'il y en aura d'autres, mais le premier étant donc le François Skuyten qui est paru il y a quelques années, Le Dernier Pharaon, et le nouveau donc qui s'appelle L'Art de la Guerre avec Flock et José Louis Boquet. Voilà.
Et c'est aussi, alors c'est publié par les éditions Black et Mortimer, ou Dargo, oui, je ne sais plus. C'est les mêmes, exactement. Voilà. En tout cas, aussi un autre grand livre où les personnages féminins dessinés par Flock sont assez incroyables. Merci beaucoup Jean-Luc Fromental, et puis très bonne continuation, et on sera au rendez-vous pour la suite.
Merci Bruno, à bientôt.
À bientôt, au revoir. Et on finit en musique avec le dernier choix de Jean-Luc Fromental, c'est Wet Leg. Voilà, c'était Chaise Longue, vous l'avez sans doute entendu et repéré, ce morceau de Wet Leg. Eh bien, merci Fabien pour cette technique avec ces coupures au téléphone, mais en tout cas, on se retrouve, je vous souhaite une très très bonne semaine, et puis on se retrouve jeudi prochain pour de nouvelles aventures. Bonne semaine à tous.
écriture dessinée.